Bonjour chers auditeurices et bienvenue dans cette matinale du 26 mars. Il fait beau, c'est le printemps comme dirait Michel Fugain. Printemps, la belle saison. Là ce matin c'est vraiment la belle saison. Je suis accompagnée de Léonie derrière les manettes. Léonie, c'est la belle saison hein, aujourd'hui. Ouais, ma fille, oui, la belle Léonie. La jolie, ma jolie. Et puis, eh ben, comme on est parti dans le printemps et dans la nature, on va parler un peu écologie, mais pas que. Parce que ce matin, dans cet entretien de la matinale, j'ai le plaisir d'être et de retrouver surtout Jean-François Dore.
Bonjour.
Bonjour Jean-François. On se retrouve, je vais vous rapprocher un peu du micro. Voilà. On se retrouve, ça fait peut-être 3-4 ans qu'on s'était vu la première fois, donc je sais que maintenant on dit Jean-François Dore et pas Jean-François Dorès.
Exact.
Eh bien, je vais vous présenter un petit peu quand même pour ceux qui ne vous connaîtraient pas. Donc Jean-François, vous êtes un architecte spécialisé dans l'innovation et le développement durable. En 2000, vous fondez l'association et la marque Vision avec pour ambition de repenser l'architecture à travers des solutions écologiques et technologiques avancées. Vous êtes lauréat du prix de la création d'entreprises de technologie innovante de l'Envar, mais il y a plein d'autres prix. Hein. Vous êtes quelqu'un qui est vraiment très, très, très primé. Vous êtes reconnu pour vos projets novateurs, dont les WC autonomes nomades, une invention primée à plusieurs reprises, notamment avec le prix de l'innovation SMIL en 2007. Vous vous distinguez aussi par votre engagement en faveur de l'environnement et de la modernisation des infrastructures, comme en témoigne votre rôle central dans le projet de l'hôpital Ibn Sina à Rabat. On va en parler longuement en deuxième partie d'entretien, un complexe hospitalier d'envergure qui incarne l'alliance entre architecture moderne, qualité des soins et développement durable. Voilà un beau portrait, mais je pense qu'il y a plein de choses que je n'ai pas dit.
Exactement, parce qu'il y a aussi les brevets et la marque Greenwall. Donc j'ai créé au début des années 2000 ici à Montpellier avec un partenaire scientifique qui s'appelle le CIRAD, qui est le Centre de coopération internationale en recherche, agronomie et développement, le premier système de murs végétaux modulables. Et cette marque Greenwall m'a complètement dépassé parce que si vous tapez dans les moteurs de recherche le hashtag Greenwall, vous allez voir des millions d'occurrences. Et ce terme Greenwall, le mur vert en anglais, qui ne signifie pas forcément un mur végétal parce qu'on verra les murs végétaux peuvent être de toutes les couleurs, est devenu le terme éponyme pour désigner une végétalisation verticale en architecture.
Et pas que verticale, parce qu'on a une drôle d'histoire tous les deux, c'est-à-dire que vous venez il y a à peu près 3 ans pour une matinale, on discute, la matinale était un peu plus longue à cette époque-là, ça passe bien avec les jeunes qui étaient là, c'était super, on avait écouté Pierre Demers, qu'on va retrouver là, mais avec son premier titre, et puis vous me parlez de quelque chose que vous avez développé il y a une dizaine d'années, même un peu plus peut-être maintenant, à Saint-Julien-de-Privat.
Alors à Saint-Privat-de-Champclaux, en Ardèche, j'ai installé un prototype de bâtiment en ossature bambou. Et ce prototype de bâtiment est tout à fait d'actualité aujourd'hui, donc développé en partenariat avec l'université de Gand en Belgique. C'est un bâtiment qui a reçu le prix de l'innovation du trophée des bâtiments résilients à Bâtimat 2022 et qui a eu aussi le prix des bâtiments recyclables du booster du réemploi, toujours à Paris en 2022. Et quant à Bâtimat, je suis monté sur scène pour remercier le jury et recevoir mon prix. J'ai remercié le jury et je leur ai dit, mais ce bâtiment qui vient de sortir de la décennale, parce qu'en fait il avait déjà 10 ans, bien vous venez de certifier qu'il était résolument d'avant-garde, puisque 10 ans après, vous lui donnez à Bâtimat le premier prix d'innovation.
Mais c'est vrai que c'est formidable, on est parti vers midi, on dit on va manger en route, en définitive tous les restos étaient fermés, et on est arrivé à 2h tous les deux dans nos bagnoles respectives, au-dessus de Saint-Ambroix quand même, on avait fait de la route, bon, on habitait pas trop loin l'un et l'autre, mais enfin si vous un peu plus loin, mais... et puis on arrive sur ce parking, dans ce lieu improbable, avec, c'est comme vous avez reconstitué comme une capitale, hein, c'est ça, voilà.
Alors oui, c'est une évocation de l'architecture du pays et de ses capitales de berger, c'est-à-dire que le bâtiment est de forme hémisphérique. Il est entièrement végétalisé de plantes locales sous leur forme sauvage. C'est aussi un office de tourisme qui est dédié aux randonneurs. Donc lorsque les guides reçoivent les randonneurs, ils peuvent visiter comme sur une planche botanique en 4D, incluant le temps et vivante, toutes les plantes que les visiteurs vont pouvoir découvrir dans le site naturel. Mais ce qui est très intéressant avec ce bâtiment et qui le rend encore plus d'actualité, c'est que son ossature bambou, donc c'est une ossature bidimensionnelle avec des bambous d'Anduze qui sont reliés par des nœuds en acier qui ont été développés avec l'allemand Thyssen. Ce bâtiment, il est intrinsèquement paracyclonique et parasismique, d'où le premier prix d'innovation du trophée des bâtiments résilients, parce que c'est un bâtiment qui intègre déjà ses caractéristiques. Il se monte en 4 semaines, donc on va très vite. On peut construire entre 40 mètres carrés et 350 mètres carrés sans point porteur, jusqu'à 10 mètres de haut. puisqu'on peut faire des dômes jusqu'à 20 mètres de diamètre. Il a été certifié par l'Université de Gand et un bureau d'études belge, mais également reconnu et certifié par le contrôleur technique de la Socotec en France. Donc il peut recevoir des établissements recevant du public. Il coûte très peu cher, 1 000 000 d'euros par mètre carré, et il est tout à fait adapté à la reconstruction de paysages dévastés, comme par exemple à Mayotte, bien sûr, où on pourrait reconstruire des villages entiers de maisons avec des matériaux locaux, puisque le bambou pousse à Mayotte, que la sphaigne, qui est la plante qui fait le substrat de la végétalisation, on en trouve à Madagascar, donc on peut la cultiver à Mayotte, et qu'en plus ce bâtiment peut être livré sous forme de kit à monter soi-même, ce qui fait que plutôt que de livrer aux habitants des bâtiments préfabriqués et en leur disant « voilà, maintenant vous habiterez là », on peut les impliquer dans l'acte de bâtir en leur proposant de reconstruire eux-mêmes avec notre technologie leur nouvelle construction, qui cette fois-ci vont enfin vraiment résister aux cyclones et aux tremblements de terre par ailleurs, et dont la végétalisation pour apporter également des cultures vivrières.
Et puis on avait parlé aussi de la crèche de Saint-Cériès ou de l'école de Saint-Cériès, il y avait tout un travail là-dessus.
Alors ça c'est encore une autre famille de projets, de bâtiments que je fais depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, donc on voit encore une fois que ce dont on parle aujourd'hui comme étant très innovant, en fait on le faisait déjà il y a 10 ans, mais les choses mettent beaucoup de temps à se diffuser, il faut évangéliser, c'est un travail de longue haleine, mais ce sont des bâtiments à énergie positive, c'est-à-dire ce sont des bâtiments qui créent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Et à Saint-Cériès comme à Saint-Pargoire dans l'Hérault, j'ai créé pour le compte de l'association Famille Rurale des bâtiments qui se remboursent au bout de 15 ans et qui en même temps sont des bâtiments modulables à ossature bois, c'est-à-dire qu'on peut les transformer au fur et à mesure de leur vie, puisque vous savez qu'un des gros problèmes de la construction béton, c'est qu'elle n'est pas ou très peu modifiable et on se retrouve avec des bâtiments qui sont obsolètes dans très peu de temps.
Quand on s'est rencontrés la première fois, on a beaucoup parlé d'architecture verte. Je vous ai parlé de celui qui a les cheveux verts, là, qui s'appelle Blanc d'ailleurs. Je ne sais pas s'il n'est pas mort, non ? Il n'est pas mort ?
Oh non, je ne crois pas.
Toujours vivant. Et vous nous aviez bien expliqué ce que c'était qu'un mur végétalisé, que ce n'était pas non plus pour pomper l'eau toute la journée, etc.
La végétalisation de l'architecture dépasse et de loin le caractère esthétique. C'est vrai que c'est très beau et qu'on focalise beaucoup là-dessus, mais une végétalisation de l'architecture, ça doit être fonctionnel. Et d'ailleurs, c'est un des dogmes, j'ai envie de dire, de l'architecture, que d'allier la forme avec la fonction. Moi, je dis souvent, le beau ne nous intéresse pas, il faut aussi que ce soit utile. Et cette végétalisation, elle est très intéressante dans les milieux urbains parce qu'elle absorbe le bruit. Alors la végétalisation de ma spécialité avec les technologies que j'ai développées et qui sont retraduites dans ce livre Architecture végétale publié aux éditions Erol déjà en 2011, c'est une végétalisation qui absorbe les bruits de manière très forte, 19 dBA, et classée A4 par le CSTB, c'est-à-dire au plus haut niveau d'absorption acoustique, la même performance qu'ici les panneaux absorbants phoniques dans le studio de radio. Et on sait qu'en ville, la première source de pollution en termes de désordre causé à l'être humain, c'est le bruit. Donc végétaliser la ville, c'est aussi le moyen d'absorber les bruits aériens, mais pas que. On absorbe les eaux pluviales. Par exemple, la cité scolaire végétalisée que j'ai réalisée à côté d'Aubenas en Ardèche absorbe 200 litres d'eau par mètre carré. Donc on sait qu'un épisode méditerranéen tel qu'on les trouve aujourd'hui, c'est globalement, 200, classique, c'est 200 mm d'eau par mètre carré. Ce qui veut dire qu'avec ces constructions végétalisées, on absorbe la totalité d'un épisode méditerranéen. Et donc on résout aussi le problème des inondations en ville, parce qu'on est dans une ville qui est beaucoup trop minérale, beaucoup trop étanche, où les bâtiments ne récupèrent pas l'eau. Et donc on se retrouve avec des quantités d'eau immenses très vite, en un quart d'heure, 20 minutes, on se retrouve avec 15 ou 20 cm d'eau par terre.
Et on fait descendre aussi la température l'été ?
Et il y a aussi le confort thermique. On abaisse de 30 degrés la température d'un toit et de 15 degrés la température d'un mur. Donc on améliore le bilan thermique des constructions et tout cet ensemble de qualités, l'absorption des bruits aériens, l'absorption et la gestion des eaux pluviales, ajouté à ça l'amélioration du bilan thermique, la lutte contre les îlots de chaleur urbains, plus le support de biodiversité, fait qu'on a entre les mains les moyens d'adapter nos villes aux enjeux environnementaux et sociétaux. D'ailleurs, on pourra en parler actuels.
Il y a 3 ans, vous nous aviez parlé, ou 3-4 ans même, quand même, maintenant ça va vite, du manque d'envie de changer, par exemple, tous les goudrons. Vous nous aviez parlé de goudrons, pas végétaux, mais des goudrons qui absorbaient beaucoup plus l'eau, qui étaient beaucoup plus adaptés aux villes. Et notamment, je me rappelle, vous aviez fait un poste quand il y a eu l'ouverture de Figrolles, où en définitive, il n'y a pas eu ces revêtements qui étaient là, où c'était du goudron traditionnel qui avait été mis.
L'exemple de ce quartier est tout à fait criant de vérité et de la situation que l'on a, c'est-à-dire qu'on goudronne l'espace public à 100%, donc on l'imperméabilise tout à fait, et ce faisant, on vient tuer les sols qui sont vivants en dessous. Dans tous mes projets, et depuis plus d'une décennie maintenant, je supprime absolument le goudron, parce que le goudron, les enrobés bitumineux, sont issus de la chimie du pétrole. Et quel sens y a-t-il à créer, par exemple, une piste cyclable, donc, qui est voulue pour que l'on sorte du règne du pétrole et de l'automobile et que l'on soit en vélo, c'est très bien, mais on les réalise en enrobés bitumineux. Et ça pose de vrais problèmes, d'abord des problèmes de quantité, parce qu'on ne se rend pas compte, mais 1000 mètres de piste cyclable, c'est pratiquement 4000 mètres carrés de pétrole répandu au sol. Et les sols vivants sont tués par goudronnage. Claire Villamand du Muséum d'Histoire Naturelle indique que les sols sont détruits pour une durée si longue qu'on ne peut la déterminer. Et le chercheur Grégory Lemkin, qui est un chercheur suisse, indique que ces pétroles diffusent toute leur vie durant dans l'environnement des hydrocarbures et des perturbateurs endocriniens qui tuent la biodiversité. Et de fait, lorsque vous faites comme ici 200 km de piste cyclable ou 230 km de piste cyclable, c'est de suite 850 000 m² de sols vivants détruits par goudronnage.
Vous parlez que tout ça, c'était aussi des problèmes sociétaux. Bien sûr, sociétaux et politiques aussi. Hein. C'est vrai, quand on me dit l'écologie ne doit pas être politique, bah, c'est difficile pour moi qu'elle ne le soit pas quand même un petit peu. Parce que c'est des choix de vie et des choix faits par les politiques. Il y a 3-4 ans, je vous avais senti des fois un peu... pas découragé, parce que vous êtes un combatif, Jean-François, mais... perplexe devant les choix qui sont faits au niveau national. En ce moment, avec la crise du Covid et surtout les deux guerres, hein, celle à Gaza et celle en Ukraine, on a l'impression que vraiment l'écologie, c'est de rester, ça va bien loin dans les préoccupations, alors qu'elle devrait toujours être là et très présente. Comment vous, en tant qu'homme engagé, je peux dire quand même, vous êtes un homme engagé et politiquement et dans votre métier, vous réagissez par rapport... au fait que c'est la guerre, donc l'écologie, on verra après.
L'adaptation de nos villes aux enjeux environnementaux et sociétaux, j'y reviendrai dans la deuxième partie de l'émission, ça doit être une priorité dans notre manière de faire ville aujourd'hui. Et c'est vrai que la plupart des maîtres d'ouvrage importants sont des élus, et que donc forcément la dimension politique est intrinsèquement liée à cette volonté des élus de faire ou de ne pas faire selon des préceptes ou des idées écologiques. Il faut à chaque fois associer la volonté politique de l'élu et une réelle expertise. Parce que trop souvent, on voit des projets qui sont des projets d'image et qui n'allient pas à la volonté politique la performance environnementale qui doit être liée absolument.
C'est pour ça que vous aimez aussi travailler à l'étranger. Vous trouvez que, par exemple, en France, c'est plus noyauté qu'à l'étranger. Il y a beaucoup de projets que vous menez loin.
Alors, Henri-Marc Rossignol de La Gazette a fait un dossier sur moi là, il y a quelques temps. Et il s'est amusé à dire, Jean-François Dor, nul n'est prophète en son pays. Et c'est vrai que cet adage me correspond aussi pas mal. Et qu'actuellement, je trouve hors Europe, surtout dans le contexte de crise que nous avons ici, et en Afrique du Nord, et notamment au Maroc, des opportunités pour travailler et développer ces idées novatrices de végétalisation de l'architecture, avec une oreille qui est une écoute qui est parfois plus attentive, plus friande, j'ai envie de dire, de développement écologique, où même s'il y a le même travail d'évangélisation qui est à faire au Maroc qu'en France, parce qu'on construit beaucoup en béton, et puis c'est traditionnel au Maroc, l'usage du béton, il y a cette perception que maintenant tout le monde visualise, qu'il faut changer notre façon de faire ville. Il y a une vingtaine d'années maintenant, quand je parlais de végétaliser la ville, au début des années 2000, donc même un quart de siècle, les gens arrondissaient les yeux, ils ne comprenaient absolument pas ce que je voulais dire, et surtout ils n'en voyaient pas la nécessité. Le gros avantage que j'ai ici en 2025, c'est que quand je dis mur végétal, tout le monde visualise ce que c'est qu'un mur végétal. Si je dis végétalisons les toitures et les rues, tout le monde comprend. Maintenant, le travail qu'il me reste à faire, c'est que l'on associe à ces images une réelle qualité et que ne sont pas dans des projets gadgets de mettre quatre plantes grimpantes dans une rue et de dire ça y est, on a végétalisé la rue, de planter quatre arbres en pot et de dire voilà, on a fait une végétalisation de l'espace public, et parce que c'est contre-productif tout simplement. Le public, moi j'ai pour habitude de dire, le public n'est pas idiot, et si les gens se rendent compte que on leur a vendu du rêve, eh bien ça sera jeté avec l'eau du bain.
Vous connaissez un petit peu la politique. Ben, je pense aujourd'hui, il y a quand même Nantes, c'est une maire écolo, écologiste.
En plus, on peut parler de Grenoble également.
Grenoble, bien sûr, hein, Lyon,
plus près
Bordeaux,
de nous, Anduze.
Anduze.
Et alors, parlant des pistes cyclables, par exemple, à Anduze, il y a une piste pour montrer qu'on peut faire autrement et que c'est viable économiquement et techniquement. À Anduze, comme à Sète d'ailleurs, on a réalisé des pistes cyclables avec un stabilisé à la chaux, qui est un revêtement perméable à l'eau, qui ne contient pas de pétrole. Et ces pistes cyclables sont parfaitement praticables parce que nos vélos ne sont pas des Airbus A380, ils n'ont pas besoin d'un enrobé bitumineux pour évoluer. Et souvent, certains de mes détracteurs disent « Oui, mais de toute façon, l'endroit était déjà bitumé, donc on l'a juste réservé aux vélos. » Mais ce n'est pas l'occasion. Justement, ce serait plutôt l'occasion de déminéraliser la ville. Et quand on voit sur une agglomération comme celle de Montpellier, je l'ai dit tout à l'heure, 236 km de pistes cyclables, c'est pratiquement 1 million de mètres carrés de bitume qui aurait pu être au moins retiré pour rafraîchir la ville, la rendre plus perméable, être support de biodiversité, absorber les bruits aériens, donc des tas de qualités, et ça à prix égal. Quand à Montpezat sous Bozon, je réalise dans le cadre d'un projet urbain 800 mètres de rue avec les deux ronds-points, où la chaussée elle-même est végétale avec un système de nid d'abeilles qui fait qu'elle est perméable à l'eau, elle est support de biodiversité, elle absorbe les bruits aériens, elle ralentit la vitesse des véhicules. Donc on voit que j'ai résolu toute la problématique. Eh bien, le conseil municipal m'avait dit « Monsieur Dor, on est d'accord, mais vous nous faites une double consultation et on veut que votre solution arrive au prix de l'enrobé bitumineux. » Et j'ai gagné mon pari puisque je suis arrivé au prix des enrobés bitumineux.
Oui, c'est ce que vous nous disiez, c'est que votre solution n'était pas plus chère, voire des fois même moins. Ça fait combien de temps que vous travaillez avec les collectivités territoriales, Jean-François Dor?
Oh, mais depuis le début, puisque vous avez parlé des sanitaires nomades, ouais. Qui sont les premiers sanitaires publics auto-nettoyants, autonomes, transportables, qui ne consomment pas d'eau. Ceux qui sont, par exemple, à Cannes sur la Croisette ou à Nice sur la promenade des Anglais, ce sont ceux qui ont le plus fort passage. Donc, on a 500 passages par jour. Et pour 500 passages, on consomme 20 litres d'eau. Et le plus ancien, il est au Gros du Roi, mairie du Gros du Roi, sur
et
la plage de l'Espiguette.
Quelle année alors à peu près?
Eh bien, il a 20 ans.
Ouais.
Et le directeur des services techniques de la ville du Gros du Roi l'appelle le Land Rover des WC, parce qu'il a 20 ans, il n'est jamais tombé en panne, parce qu'il n'y a pas de moteur, donc il n'y a pas de panne. Et régulièrement, mon partenaire industriel, qui est le groupe Maillard Industrie à Besançon, téléphone en disant « vous ne voulez pas un nouvel appareil ?» Et chaque fois, on leur répond « mais non, il marche très bien, merci ».
Vous trouvez qu'en 20-25 ans, quand même, les oreilles se sont un peu ouvertes. Vous avez été précurseur, vous avez été militant presque de cette cause d'architecture verte et végétale. Est-ce que vous sentez quand même aujourd'hui que vous avez moins à convaincre, ou est-ce que ça n'a pas tant bougé que ça?
Alors, mon ami et confrère Rudy Ricciotti a écrit un papier dans Le Monde où il titre « L'architecture est un sport de combat ». Et il a parfaitement raison, parce que c'est ça la pratique régulière de l'architecture, pour autant que l'on se place dans l'innovation et le développement durable. Mmh. Il est évident que si je construisais des pavillons en béton, en tuiles et en enduit, ça serait beaucoup plus facile pour moi. Et mon exercice serait grandement simplifié. Mais notre ancien président de région, Feu Georges Frêche, un jour est venu me voir au pied du mur végétal de la serre amazonienne. Et il me dit « Bravo, monsieur Dor, ce que vous faites est très courageux ». Et je l'aime beaucoup, Georges Frêche, et je lui dis « Ah bon, et pourquoi, président, c'est courageux ?» Et il me dit « Mais parce que ce que vous faites est intelligent, et donc ça n'intéresse personne
». C'était les formules de Georges Frêche.
Absolument.
Y a aussi une chose quand on discute tous les deux, parce que bon, on ne s'est pas vu depuis longtemps, mais on s'écrit quand même de temps en temps. Et il y a une chose que vous mettez souvent en avant, c'est la compétence presque scientifique. C'est-à-dire que quand vous me parlez d'un projet, ou quand vous me parlez d'une idée, ou quand vous me parlez d'une façon d'aborder les choses, vous êtes au Collège de France, vous avez écrit quelque chose avec les gens du Collège de France.
On va y revenir tout à l'heure. C'est un groupement. Alors, pour
Ben on peut en parler, comme ça après on fait notre pause musicale et on parle de Rabat.
La première
après.
Partie de votre question, j'ai toujours dit que l'architecte n'est pas celui qui sait tout. L'architecte est celui qui sait aller vers les différents corps de compétences et opérer la navette de manière à en faire la synthèse. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est d'ailleurs Edgar Morin qui le dit et l'écrit dans son livre « Les idées, la méthode ». Page 267 pour les auditeurs qui ont le livre en main ou dans leur bibliothèque. Et moi, ma philosophie, ça a toujours été d'aller vers les corps de compétences pour intégrer, incorporer leur savoir-faire. Et ça, cette devise, c'est une devise du Collège de France, effectivement, d'organiser une pensée transversale dans le cadre d'une réflexion systémique. Et ce travail, nous l'avons fait pendant 10 ans, de 2013 à 2023, dans un groupe de recherche et d'action. C'est moi qui ai tenu à ce qu'on rajoute le mot « et d'action ». Et il faudra qu'on en parle aussi au niveau des actions que nous avons pu faire, qui s'appelle « GRA-OMNA », groupe de recherche et d'action Homme et Nature, qui s'est réuni tous les mois pendant 10 ans à la Fondation Hugo du Collège de France. Nous sommes 21 experts dans le groupe, une moitié est professeur au Collège de France, et l'autre moitié, c'est le Collège des personnalités externes dont je fais partie. Et nous venons d'horizons très divers, puisque bon, moi je suis l'architecte de la bande, mais nous avons David Cohen qui est pédopsychiatre, Alain Berthoz qui est spécialiste des neurosciences, Edgardo Carosella qui est médecin et académie de médecine, Jean-Jacques Hublin, anthropologue, qui d'autre, Miroslav Radman qui est croate qui travaille sur le vieillissement, mais on a aussi un philosophe, Claude Debru, un sociologue, Alain de Vulpian, un spécialiste des arts, Don Foresta, Claire Villamand du Muséum d'Histoire Naturelle, département d'entomologie et qui m'a beaucoup aidé justement pour permettre à la vie des insectes de survivre à l'occupation de l'homme dans nos villes, puisque les insectes ont disparu, mais j'en parlerai tout à l'heure. Nous avons Marc-André Sellos qui est spécialiste du génie des sols.
Ah, ça se passe comment? Moi j'aimerais être une petite souris. Vous vous réunissez tous et vous discutez?
Alors on se réunit tous, puisque là ça s'est arrêté là, depuis quelques mois, puisque notre livre Sapiens, Métamorphose de l'extinction est publié aux éditions Humaines Sciences et c'était la conclusion, la restitution de ce travail au travers d'un livre. On se réunissait tous les mois, donc sur une journée, avec un déjeuner et un repas le soir qui permettait de débattre entre nous. Et on a reçu à chaque séance deux intervenants, donc d'horizons très divers. Et comme ce sont des petits groupes à la Fondation Hugo, où nous sommes nous une vingtaine et les deux intervenants, il y a beaucoup d'échanges. Ça nous permet de beaucoup questionner les intervenants sur leur savoir-faire. Et ça nous a permis de nous enrichir. Moi, je me suis prodigieusement enrichi pendant tous ces séminaires et pour pouvoir améliorer, implémenter notre travail.
Et est-ce que les politiques se sont intéressés à votre travail, justement? Enfin, pas à votre travail, vous, Jean-François, mais à travail du groupe?
Alors, j'ai essayé de faire revenir des politiques, mais ça m'a été refusé. Ouais. Parce qu'il y a cette volonté au Collège de France de ne pas mélanger le politique avec nos débats. D'ailleurs, Cédric Villani, qui devait faire partie du groupe, avait été accepté par tout le monde, puisque c'était la manière dont on s'est coopté. Mais il a été refusé ensuite parce qu'il a décidé un autre destin à l'Assemblée nationale que nous connaissons tous.
Il est revenu un petit peu sur ses prises de position quand même, Villani.
Oui, mais le groupe est terminé.
Je crois qu'il a été un peu déçu de ça.
Mais alors, en termes d'action, notamment, puisque le but de ce groupe, ce n'est pas seulement de faire que de la recherche. Moi, j'avais insisté, dès le départ, à ce que nous ayons des actions, justement, transversales. Et notre auditeur peut se dire, mais qu'est-ce qu'un pédopsychiatre a à faire avec un architecte? Eh bien, avec David Cohen, nous avons créé, sur les toits de l'hôpital Pitié-Salpêtrière à Paris, un ensemble de murs végétaux qui sont destinés aux enfants autistes. Et ce sont eux qui vont jardiner ce mur végétal tous les mardis. Et nous avons pu mettre en évidence qu'il y avait une nouvelle ergonomie de l'architecture grâce à sa végétalisation qui est source de bien-être et qui permet à ces enfants autistes de se recontextualiser avec le temps, puisqu'ils voient les végétaux grandir, ils plantent le petit fraisier dans le mur, ils voient apparaître la fleur et de la fleur naître le fruit est la récompense de leur travail. Ce qui diminue aussi un sentiment, on va dire, d'agressivité par rapport au milieu de l'enfant autiste, puisqu'il devient complice de son environnement. Et j'ai pu présenter l'ensemble de ces travaux au mois d'octobre dernier, à Marseille et en Italie, au 9e congrès national des équipes mobiles en psychiatrie. Et la présidente du Congrès, et j'en suis très content, a mis dans les actes du Congrès, et ça a été la conclusion du Congrès, que cette végétalisation de l'architecture était source de bien-être vis-à-vis de l'être humain et qu'elle permettait d'atténuer certaines pathologies. Par exemple, on sait que les cas de schizophrénie sont à 70% urbains.
Ah d'accord.
Et il y a des gens dans mon groupe, et il y avait des gens au congrès de psychiatrie qui travaillent dans les milieux hospitaliers, qui m'ont dit, mais nous on travaille à Paris dans des hôpitaux, on part le matin, il fait nuit, on rentre à la maison le soir, il fait nuit, on a passé toute la journée à l'intérieur, donc on n'a jamais vu l'environnement. Mmh. Donc si on végétalise l'intérieur, à ce moment-là, ça permet de les recontextualiser avec l'environnement.
Eh ben, on va marquer une pause musicale, et puis on se retrouve après, juste après. Merci beaucoup, à tout de suite.
Je parle au nom des animaux. Ce soir, la ville est à nous. Je parle au nom des animaux. Ce soir, la ville est à nous. Les hommes ont peur des sentiments, il faut les faire taire. Je parle au nom des animaux, et ce soir, la ville est à nous. Je parle au nom des animaux, ce soir, la ville est à nous. La ville est à nous, 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 à nous, à nous, à nous, à nous.
Bonjour, vous êtes bien toujours sur Radio FM+, toujours dans le grand entretien de la matinale avec Léonie aux manettes et en compagnie de Jean-François Dor. Jean-François, les animaux.
Et voilà, c'est le cœur du sujet et c'est le cœur de ce que j'aborde. C'est-à-dire que notre société actuellement est dans un déni de réalité qui est effarant. Et on n'a pas conscience qu'en moins de 50 ans, on a perdu 75% de la biomasse des insectes, 60% de la biomasse des oiseaux, des oiseaux, 68 les oiseaux et 48 en ville pour les oiseaux, 60% de la biomasse des poissons dans nos rivières. Et je sais que les derniers chiffres du WWF ne sont guère encourageants puisqu'ils parlent globalement d'une disparition de 75% de la biomasse des espèces animales.
Il faut savoir... On le voit quand on conduit, hein. Voilà. Quand on conduit, mais... que le jour se baisse, on n'a plus un insecte sur les...
C'est Gilles Leboeuf, ancien président du Muséum d'Histoire Naturelle, qui disait ça il y a déjà 10 ans. Il faut savoir que Jean Dorst, lui aussi président du Muséum d'Histoire Naturelle, l'a écrit dans son livre « Quand nature se meurt » en 1964. Donc les scientifiques, encore une fois, le savaient depuis longtemps. Et j'en viens à l'essentiel. C'est bien la pensée qui m'anime. Et depuis 25 ans, quand je propose de végétaliser l'architecture, c'est de faire en sorte que Homo sapiens trouve son habitat, son Umwelt, en harmonie avec son environnement. Et mon adage, qui est récurrent et qui devient finalement l'enseigne de ma marque Vision, c'est construire, ce n'est pas détruire la nature, mais c'est savoir composer avec elle.
Mmh. Jean-François, on était un peu dans l'improvisation ce matin, parce que le journal de RFI n'est pas parti, donc on a pris le micro un peu en avance, mais du coup, il nous reste 5 minutes. Je voulais parler longuement de ce sur quoi vous êtes en ce moment. C'est le projet de l'hôpital Ibn Sina. Est-ce que vous pouvez nous en parler rapidement, ou est-ce que vous voulez qu'on se donne rendez-vous dans un mois et demi pour en parler plus longuement ?
On fera les deux.
On fera les deux. On en parle un petit peu aujourd'hui quand même.
Alors, c'est donc dans les murs végétaux, j'en réalise depuis maintenant 2005. Les premiers, le tout premier a été d'ailleurs sur les murs de l'école d'architecture de Montpellier. C'était le prototype qui a été cofinancé par la région à l'époque Languedoc-Roussillon, aujourd'hui Occitanie. Donc les tout premiers ont été à Montpellier. Il y en a maintenant partout, y compris des contrefaçons partout dans le monde, même en Australie, même aux États-Unis. Moi-même, j'ai réalisé un mur végétal de 1300 mètres carrés à Milan sur les façades du plus grand centre commercial d'Italie et qui a été labellisé record du monde du plus grand mur végétal en 2013, donc il y a déjà 12 ans. Et au Maroc, où j'ai fait une conférence à Rabat, au Palais des Congrès, en 2016, à l'occasion de Bâtiment Rabat, j'ai rencontré un industriel, Adil Rtabi, qui est le plus gros façadier du Maroc avec son groupe Jet Contractors. Et Adil me téléphone il y a 2 ans en me disant on avait toujours la volonté de travailler ensemble et de monter Greenwall au Maroc. Et Adil me téléphone il y a 2 ans en me disant voilà, Jean-François, j'ai un mur végétal à faire de 100 mètres de haut. Et alors, j'ai tout de suite dit oui, parce que d'abord, ça correspond à un rêve d'enfant. Et ensuite, voilà, j'avais fait le plus grand 1300 m² à Milan. Là, ce sera le plus haut du monde que je connaisse. Et l'hôpital, le nouvel hôpital de Rabat, qui est une tour qui fait 120 mètres de haut, va être végétalisé en vertical. Toute hauteur, et les patients vont pouvoir accéder à ce mur végétal par le biais de passerelles et de terrasses à chaque étage. Parce qu'on retrouve ce que je disais avec le professeur David Cohen, lorsque vous êtes hospitalisé à l'étage 48 ou à l'étage 29, vous perdez toute relation avec la nature. Et donc ces murs végétaux seront aussi thérapeutiques, composés de plantes aromatiques et plantes à parfum et plantes à petits fruits, et permettront aux patients de se reconnecter avec la nature pendant son traitement.
Jean-François, on en reparlera plus longtemps dans un mois. Si nos auditeurs veulent en savoir plus sur votre travail, vous êtes venu, il est toujours disponible chez Erol, ce livre ?
Architecture végétale aux éditions Erol est toujours disponible. Et d'une manière beaucoup plus complète, il y a Sapiens, Métamorphose, l'extinction aux éditions Humaine Science, paru en 2022, où j'ai écrit 2 chapitres, Métamorphose de l'habitat, vers la vie de la biodiversité, mais où notre auditeur pourra trouver des articles sur les insectes, sur le génie des sols, sur les neurosciences, sur la chimie douce, etc., etc.
Et un site ?
Et un site, archivision.fr.
Voilà, pour en savoir plus sur Jean-François Dor, c'était une belle rencontre il y a 3 ans, c'en est encore une belle aujourd'hui. Et franchement, ça nous donne envie d'en faire plus souvent et de parler sur des sujets concernant l'écologie et l'environnement. Ben, merci beaucoup Jean-François.
Merci à vous pour votre invitation.
Et à très vite, c'est sûr, à très vite. À bientôt, au revoir, à demain pour une autre matinale. Il reste 1 minute. Eh bien oui, alors qu'est-ce qu'on peut dire en 1 minute à nos auditeurs, Jean-François ?
Qu'est-ce qu'on peut dire en 1 minute ? Que ces projets de végétalisation ne sont pas forcément faciles à porter, comme vous l'avez dit. J'ai amené ici un magnifique permis de construire que j'avais déposé ici à la ville de Montpellier pour la surélévation d'un immeuble où je proposais de créer 500 mètres carrés d'espace vert sur une parcelle étroite de 165 mètres carrés seulement. Donc je multiplie par 5 la surface d'espace vert par rapport à celle du sol, et ce permis a malheureusement été refusé au prétexte que le projet pouvait nuire au caractère environnement du secteur.
Et quand on le voit, on se demande pourquoi. On va regarder tous les deux Léonie, on va lui demander. Léonie, on t'a parlé avec ce projet refusé de cette minute qu'il fallait faire ? Je peux dire au revoir gentiment à nos auditeurs ? Chers auditeurs, bonne journée du mercredi 26. Merci d'avoir adapté votre oreille à cette adaptation d'emploi du temps ce matin. Vous retrouvez bien sûr toutes vos émissions, et je crois que ça continue directement avec moi d'ailleurs après, où on vous parle d'art avec une rencontre formidable avec Philippe Simon qui nous parle de Monet et de Clémenceau. Voilà. Et puis après, eh bien, Jean-François Martinez, tous vos animateurs préférés. Merci beaucoup et belle journée à vous.